12h15 sur RJB, le journal Alexandre Michler.
Bonjour, et il est 6h15 à New York. Les bureaux de vote ont ouvert aux États-Unis, les premiers en tout cas, et le monde entier a les yeux rivés sur le pays. Les Américains qui se rendent aux urnes pour élire leur nouvelle présidente ou leur nouveau président. Cette question, qui de Kamala Harris ou Donald Trump sera élu? La tension est à son comble. Nous nous rendrons dans quelques instants en Floride pour prendre la température. C'est là que vit la prévotoise d'origine, Suzanne Zwicic. Nous irons également à Berne pour voir ce que pensent nos parlementaires fédéraux des deux candidats. Et puis, Olivier Zano nous expliquera le fonctionnement bien spécial de l'élection présidentielle américaine. Une élection qui occupera, vous l'aurez compris, une grande partie de notre journal. Dans l'actualité régionale, Nez Rouge Jura Bernois prépare son retour avec une nouveauté cette année. L'organisation s'informatise avec l'arrivée d'un nouveau système, un système déjà utilisé par la section de Bienne. Présentation dans ce journal. Météo là où il n'y a pas de brouillard, il y a du soleil et ce sera le cas toute la journée. Les températures resteront fraîches sous la grisaille, douces sur les hauteurs. Un temps similaire est prévu pour demain. Et les regards sont donc braqués aujourd'hui sur les États-Unis. Les citoyens élisent leur présidente ou leur président. La démocrate Kamala Harris est opposée au républicain Donald Trump pour ce qui devrait être l'une des élections présidentielles les plus serrées de l'histoire en Amérique. La prévotoise Suzanne Zwicic vit en Floride depuis 1974. Elle a embrassé très vite la cause des démocrates. Elle nous raconte la tension qui règne aux États-Unis à l'approche du verdict des urnes. Suzanne Zwicic.
Nous essayons de sortir et de ne pas trop regarder les nouvelles tous les jours, tout le temps, et de faire certaines choses, de faire un peu de sport, des choses qui nous aident à nous relaxer.
La tension est comme ça forte, on est obligé de se sortir de là.
Très, très, très forte. Surtout des personnes qui voient que c'est un assaut sur la démocratie, les droits des femmes et tout ça.
La question du droit à l'avortement, qui est menacée sur tout le territoire américain désormais, est centrale dans le débat. Est-ce que les femmes se mobilisent particulièrement cette année?
Énormément. Il y a énormément de femmes qui se mobilisent. Et une des choses qui est devenue très normale, c'est que très souvent le matin, quand on met la télévision, on voit qu'il y a un nouveau groupe de personnes, de républicains, qui n'ont pas les idées libérales avec l'économie et tout ça, mais qui décident de joindre Kamala Harris.
Voilà, Suzanne Zwicic, donc prévotoise d'origine, qui vit en Floride. Et comme le reste du monde, la Suisse et la Berne fédérale ont aussi les yeux rivés sur l'élection américaine. Un sondage mené par l'Institut Gallup et repris ce matin par le groupe Tamedia montre que 61% des personnes interrogées en Suisse soutiennent Kamala Harris et 25% Donald Trump. Le soutien aux candidats républicains est plus marqué en Suisse qu'en France, en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Et du côté des parlementaires fédéraux, eh bien, on préférerait que la candidate démocrate l'emporte, Serge Hubin.
Il n'y a pas eu de sondage digne de ce nom auprès des 246 membres du Parlement fédéral. On peut toutefois extrapoler diverses prises de positions individuelles pour constater que Donald Trump a des soutiens à l'UDC, quelques-uns au PLR, pour des raisons économiques. Mais qu'une assez large majorité lui préfère la démocrate Kamala Harris pour éviter l'imprévisibilité, à l'instar du socialiste neuchâtelois Baptiste Urny.
On serait dans une grande stabilité de la politique internationale et sécuritaire, ce qui signifie, pour ce qui préoccupe le plus la Suisse aujourd'hui peut-être, un soutien continu à l'égard de l'Ukraine et donc pas un effondrement du gouvernement ukrainien faute de soutien international.
Même s'il reconnaît que les intérêts économiques de la Suisse pourraient faire pencher pour Donald Trump, le président de l'association parlementaire Suisse-États-Unis, Damien Côtier, estime que les valeurs de la démocratie doivent primer.
Il y a toute la question de l'équilibre du monde, de la sécurité, de la stabilité et de la démocratie. Là, probablement que ça ne penche pas du côté d'une candidature de Donald Trump. En termes de sécurité et d'équilibre du monde, très certainement qu'un gouvernement Harris serait beaucoup plus prévisible et beaucoup plus favorable au fond aux défenses des valeurs de la démocratie. Et je crois qu'on ne doit pas perdre ça de vue.
L'UDC Bernois Manfred Buller a un avis opposé. Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre, tout au contraire.
Je laisse à la politique intérieure des États-Unis le côté impulsif que l'on prête à Donald Trump. Je crois que sur le plan des relations internationales, il a montré qu'il était capable d'avoir une vraie vision de long terme positive pour notamment ne pas lancer de nouveaux conflits armés.
Pour en revenir au sondage sondage Gallup qui s'est aussi intéressé à l'image qu'auront les États-Unis avec Donald Trump ou Kamala Harris à la Maison-Blanche. 16% des Suisses pensent que cette image se bonifierait avec le républicain aux affaires, mais 59% s'attendent à l'inverse, à une péjoration.
À Berne, Serge Jubin, et on l'a dit, donc il est 6h20 sur la côte est des États-Unis. Le matin, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, les premiers. On l'a compris, cette élection est un événement majeur, scruté dans le monde entier. Mais c'est aussi un événement complexe, mode d'emploi, avec Olivier Zano.
Ce sont bien les urnes qui vont parler ce mardi outre-Atlantique, mais aux États-Unis, la sauce démocratique a un goût bien différent de notre savoureux système helvétique.
Il est goulayant, il a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. Vous pouvez servir.
On parle d'une élection au suffrage universel indirect. Alors oui, les Américains devront bel et bien cocher sur leur bulletin les noms de Donald Trump ou de Kamala Harris. Mais dans les faits, leurs voix permettront de nommer les 538 grands électeurs qui composent le collège électoral. Des porte-voix, si on peut dire, qui dans un deuxième temps voteront au nom des citoyens pour élire le nouveau président ou la nouvelle présidente. On vote indirectement pour des personnes qui voteront à notre place.
Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein.
Il faut rallier au moins 270 grands électeurs pour être élu. Le nombre de grands électeurs dans chaque État varie en fonction de la démographie notamment. À titre d'exemple, on en compte 30 en Floride, 8 dans l'Oregon, 28 à New York et 54 pour la seule Californie. Pour un candidat, gagner un État signifie gagner tous les grands électeurs. C'est le principe du « winner take all ». Seuls 2 États sur 50 fonctionnent avec un système plus ou moins proportionnel. Ben oui, ça serait trop simple sinon.
Je n'ai pas compris. J'en ai trop dans la matinée!
Au total, 240 millions d'électeurs américains sont appelés aux urnes. Ça fait du monde, surtout si la participation est aussi forte qu'en 2020, 66%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vote déjà depuis longtemps. La majorité des 50 États autorisent le vote anticipé aux urnes depuis le mois de septembre. Le vote par correspondance existe aussi. En 2020, 66,4 millions d'électeurs avaient choisi cette option, soit 4 personnes sur 10. Ça n'avait d'ailleurs pas réjoui Donald Trump, qui avait qualifié ce vote par correspondance de fraude électorale.
Colossale conspiration.
Tout ça, c'est pour résumer l'affaire. Le processus électoral est décentralisé aux États-Unis. Il est géré par les États, les comtés, même parfois par les municipalités. Chacun a son propre code, des modalités différentes, des heures d'ouverture des bureaux de vote différentes. Une sacrée salade. Seule certitude, le dépouillement officiel va débuter dès la fermeture des bureaux de vote, entre 18h et 20h, heure locale, en décalage bien sûr, puisque le continent américain est découpé en 3 fuseaux horaires, sans parler d'Hawaï. Là aussi, chaque État fait à son rythme sa propre petite cuisine.
Vous appelez ça un steak saignant ? Il est carbonisé.
Les premiers résultats provisoires devraient être connus en tout début de matinée, heure suisse. On s'attend déjà à une des élections les plus serrées de l'histoire. Dans la grande majorité des États, on sait déjà par expérience qui va remporter la mise. La Californie, par exemple, vote fortement démocrate. C'est l'inverse pour le Tennessee qui soutient majoritairement Trump. Tout devrait se jouer une fois encore dans ces fameux swing states, ces 7 États ultra indécis comme la Géorgie, la Caroline du Nord ou l'Arizona. Ils représentent 93 grands électeurs au total. 6 de ces États avaient préféré Joe Biden il y a 4 ans. Rien n'assure qu'il en sera de même cette année.
Merci Olivier Zano. Et les premiers résultats partiels de cette élection présidentielle américaine sont attendus demain matin tôt. Une matinale spéciale vous permettra d'y voir plus clair. Rendez-vous aussi ce soir à 18h pour entendre d'autres témoignages et analyses. Notez que près de 80 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée, selon le New York Times. Une autre élection dans la région cette fois-ci, celle pour le deuxième tour de la mairie de Bienne qui se jouera entre deux femmes, deux francophones, la socialiste Glenda González-Bassi ou la PLR Natacha Pittet. À moins d'un mois du scrutin, cette dernière redouble d'efforts pour engranger le plus de voix. Si la candidate libérale promet un mandat axé sur le dialogue et la sérénité, ça ne suffit pas à apaiser les inquiétudes de la gauche qui redoute l'austérité et les coupes budgétaires si la mairie bascule à droite. La réaction de Natacha Pittet.
Je répondrai que tous les partis et toutes les fractions du Conseil de ville qui sont là aujourd'hui et qui se retrouvent, à l'exception d'une nouvelle, dans la prochaine législature, tous ont signé un accord pour assainir les finances de la ville de Bienne. Nous continuons sur cette voie. Et c'est pas la mairie n'a pas les cordons de la bourse. Et le conseil municipal doit aussi travailler avec le conseil de ville. Donc je ne crois pas qu'il y aura plus d'austérité. Mais nous sommes tous d'accord, tous les membres du conseil municipal, que nous devons trouver des moyens d'assainir les finances de la ville de Bienne.
À noter que l'élection de la future maire de Bienne se tiendra le dimanche 24 novembre. Demain, la matinale recevra l'autre candidate en lice, la socialiste Glenda González-Bassi. Un entretien à écouter dès 7h35. Le chômage gagne légèrement du terrain dans la région. Le taux a augmenté de 0,2 point dans le canton du Jura en octobre par rapport au mois précédent. Il s'établit désormais à 4,3%. Augmentation aussi dans le canton de Neuchâtel qui passe de 3,9 à 4%. Et dans l'arrondissement de Bienne de 3,8 à 3,9%. Pas de changement en revanche pour le Jura bernois qui stagne à 3,6%. Bienne veut conserver ses vélos publics en libre service. Les autorités entendent prolonger le contrat actuel pour une durée de 3 ans. Elles demandent au conseil de ville de valider le crédit nécessaire dans ce but. Montant total 585 000 francs. Plus de précisions dans le journal de 18h. Né Rouge Jura Bernois prépare sa saison 2024. La section régionale sera active entre le 6 décembre et la nuit du 1er au 2 janvier. Mais pour ramener les habitants de la région à bon port, des bénévoles sont nécessaires. L'année dernière, ils ont été plus de 160 à offrir de leur temps. Cette année, les volontaires pourront même tester un nouveau programme informatique. Présentation avec la responsable des bénévoles pour Né Rouge Jura Bernois, Nathalie Velti.
Cette année, on aura un programme pour gérer les courses. Ce sera plus simple pour estimer un peu le temps d'attente pour les clients et puis aussi pour coordonner avec les autres sections si on doit passer les courses plus loin. Les bénévoles recevront directement les courses sur l'application Telegram sur leur smartphone. Qu'est-ce que ça va permettre ? Alors surtout de gagner du temps, de ne pas rappeler 3 fois la personne pour lui redonner le numéro de téléphone parce qu'elle l'aura directement sur le smartphone. C'est vrai qu'avant, si on communiquait que par téléphone, des fois on peut prendre note. Si on est dans la voiture, ce n'est pas toujours très pratique.
Voilà, Nathalie Velti, responsable des bénévoles pour Né Rouge Jura Bernois. Notez que ce système est déjà employé par d'autres sections comme celle de Bienne. Les personnes intéressées à devenir bénévoles trouveront toutes les infos nécessaires sur nerouge-jurabernois.ch. Rire sur la joue, mise sur la découverte. Le festival d'humour Franc-Montagnat revient pour une 3e édition les 9, 11 et 12 avril prochains à la Maison des Œuvres. L'association La Diva qui organise l'événement a dévoilé ce matin sa programmation. Le La Joue Comedy Club ouvrira le bal avec une carte blanche donnée à Laura Chénia pour choisir 4 artistes suisses dont les identités seront connues en fin d'année. Le festival accueillera aussi les Français Thomas Gété, Cyril Estes et le duo Gilles Alma et Ben Joubert, ainsi que la Belge Manon Lepomme. Une affiche moins clinquante que lors de la précédente édition qui avait reçu l'humoriste français Jal. Les explications du président du comité d'organisation de Rire sur la joue, Sandro Sestellet.
Jal, c'était une opportunité qu'on a eue par un ami du festival qu'il connaît personnellement, donc voilà, ça s'est donné comme ça. Le choix des artistes, il se fait aussi par rapport à la capacité de la salle, et puis au cachet et surtout aux demandes techniques demandées par les artistes qui nous limitent souvent dans nos choix. On avait un contact où le cachet était bon pour nous. Au niveau technique, c'était très très compliqué, donc ça nous pétait le budget, donc on a renoncé. Et un autre exemple où c'était OK avec la technique, OK avec le cachet d'artiste, mais c'est la production qui nous a bloqués parce qu'ils ne veulent pas prendre des salles de moins de 600 places. Donc voilà, on est limité, mais on est très content de la programmation et puis c'est des super spectacles qu'on va proposer. On est un festival de découverte à la base, donc c'est des artistes reconnus mais qui ne sont pas connus du grand public. Donc voilà, les gens donc à venir se rendre ici, puis ils verront la qualité des spectacles qu'on propose et puis enfin ceux qui sont déjà venus le savent et puis ils peuvent que revenir.
Voilà, Rire sur la joue dispose d'un budget de 53 000 francs. La billetterie ouvrira demain. Il est 12h30 sur RJB, la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au nom de toute la rédaction, excellent après-midi.